Vous écoutez la web radio du HUF en direct du Novotel Avignon Centre.
Osmose.
Osmose.
Osmose Radio.
La web radio du HUF.
La liberté est une valeur cardinale et c'est pas quelques jours après le 14 juillet que vous viendrez me dire le contraire, chers amis. Eh bien, la liberté est une valeur cardinale, y compris pour nos comparses féminines qui l'ont acquis. Qui ont acquis certains droits, qui allaient dans le sens de cette liberté, dans la douleur, si j'ose dire, durant ces dernières années, hein, 1789, ne nous a pas tout apporté sur un plateau. Et d'ailleurs, ce sont des combats qu'il faut mener toujours et encore, car rien n'est jamais acquis, ni seulement à l'homme, comme disait Aragon, mais certainement pas à la femme, comme disait Simone de Beauvoir. Mais ce ne sera pas de ces deux-là dont il va être question aujourd'hui, ce sera d'un spectacle qui a été inspiré par Gisèle Halimi, le spectacle Une farouche liberté, pour lequel je reçois Jean Chollet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes metteur en scène de ce spectacle qui est représenté au théâtre Pierre de Lune. C'est à côté du théâtre La Luna, en fait, à deux pas de la porte Thiers, tous les jours à 14h45 jusqu'au 30 juillet. Une farouche liberté qui est en fait à l'origine un livre d'entretien de Gisèle Halimi.
Exactement, c'est le dernier livre d'entretien que Gisèle Halimi a accordé à Annick Cojan, la journaliste du Monde, et dans lequel, au fond, elle se livre à un parcours rapide. C'est un petit bouquin, hein, un parcours rapide de l'ensemble de son existence, avec aussi bien ses procès emblématiques, comme Bobigny ou Aix-en-Provence, que quelques souvenirs d'enfance, que son combat en Algérie où elle défend des membres du FLN, que son activité politique à l'Assemblée nationale, etc.
Alors rappelons un Bobigny très rapidement, c'était l'histoire d'un avortement clandestin qui avait mal tourné. À l'époque, on faisait ça avec des aiguilles à tricoter ou des cintres, pour vous dire un peu. Et à Aix-en-Provence, c'était quelques années plus tard, toujours dans les années 70, l'histoire d'un viol dans les Calanques qui avait été, c'était un procès en appel, il me semble. Voilà.
Un procès en appel parce que, le premier procès de ces violeurs avait conclu à une liberté assez mesurée, puisque ça a été considéré comme un délit, donc une petite peine, et il y a eu procès en appel, et là, alors Gisèle Halimi a pris vraiment le mort aux dents, et au fond, elle a réussi à obtenir que ce soit pas seulement le procès des violeurs, comme l'avait recommandé le président du tribunal, mais le procès du viol, et que le viol soit désormais considéré non plus comme un délit, mais comme un crime, donc passable de cour d'assises, et ça, ça a été une révolution extrêmement importante. Elle a été extrêmement choquée lors de ce procès de constater que dans l'argumentaire des défenseurs des violeurs, au fond, comme les deux jeunes femmes violées étaient homosexuelles, l'argumentaire de l'avocat, c'était de dire finalement, ces jeunes hommes ont été un peu trop entreprenants, mais au fond, ils ont ramené ces jeunes femmes dans le bon chemin. Et alors là, Gisèle Halimi était horrifiée de ce type de raisonnement, bien sûr.
Et à l'époque, l'homosexualité était encore considérée comme une maladie, au moins en théorie, elle n'était plus en pratique, mais comme une maladie psychiatrique. Voilà. Donc, on était un petit peu dans ce contexte-là à l'époque, et on a déjà beaucoup reproché dans les années 70 et aussi un peu par la suite à Gisèle Halimi de mélanger ses combats politiques et sa carrière d'avocate et son combat devant les tribunaux. Et justement, vous voyez ça d'assez loin, si je peux me permettre de vous le dire comme ça, puisque vous, Jean Chollet, vous êtes certes metteur en scène de théâtre contemporain et depuis un certain temps tout de même, mais surtout vous venez d'un pays voisin de la France, vous venez de la Confédération helvétique, et surtout, quelque chose qui m'intrigue, vous êtes pasteur. Alors ça, pardonnez-moi, mais dans les préjugés qu'on a sur le la christianisme en règle générale et le christianisme réformé en particulier, on ne peut pas s'empêcher de se dire que ce sont quand même des tendances religieuses qui ont encouragé les femmes à procréer et à surtout pas aller dans le sens contraire de ce qu'on veut être la nature. Et vous intéressez à une femme qui a mené des combats en faveur de l'avortement libre. Comment vous avez été amené à vous intéresser à une telle personnalité?
Je vais vous dire deux choses. D'abord, il en va de même chez les prêtres et chez les pasteurs ou chez les rabbins ou chez les imams. C'est-à-dire, il y a les libéraux et il y a les orthodoxes. Et évidemment, je ne fais pas partie des orthodoxes. Ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième, c'est que le protestantisme a beaucoup, beaucoup moins insisté que le catholicisme sur la nécessité de faire des enfants à tout prix. Hein.
Non, ça, c'est vous qui le dites.
Si, et notamment en France, après la guerre, il y a eu quand même un mouvement très, très fort pour dire qu'il faut repeupler.
Mais c'était pas le catholicisme, ça, c'est monsieur.
C'était le nationalisme mélangé à un catholicisme classique.
Le patriotisme, mais, pas le nationalisme.
Peut-être. Mais le protestantisme en France, il est tout petit. Donc je veux dire, son influence, elle est complètement ridicule. Enfin, non, elle n'est pas ridicule, mais elle est très modeste. Voilà. Si, je me suis intéressé à ça, peut-être parce qu'au fond, je viens d'un pays traditionnel, ou traditionnaliste à certains endroits, qui a beaucoup résisté à l'idée de permettre simplement aux femmes d'être élues et donc de conduire une carrière politique, qui globalement apprécie le fait que les femmes s'occupent des enfants, en tout cas pendant que les enfants sont relativement jeunes. Donc je viens de tout ça. Et moi, dès que j'ai commencé à lire Gisèle Halimi et son combat qui commence très tôt, puisque je vous le rappelle, sa première grève de la faim, c'est à 7 ans, quand, née dans une famille où ce qui est normal, c'est que les filles servent les garçons à table, elle refuse ce travail-là, ses parents évidemment n'écoutent rien, et elle n'a plus qu'un seul moyen pour obtenir une victoire sur cet asservissement, c'est la grève de la faim. Elle fait une grève de la faim à 7 ans, et elle obtient de ne plus servir ses frères à table, ce qui est formidable. Donc moi, quand je découvre cette femme qui combat pour... Ce qui est intéressant avec Gisèle Halimi, c'est que c'est son combat pour une place aux femmes. Ce n'est pas un combat contre les hommes. C'est vraiment un combat d'équilibre. Quand elle dit, elle a une phrase fantastique quand elle dit « Si l'avenir n'est fait que d'attentes de femmes et de mains d'hommes, il boitera toujours ». Et je crois que c'est exactement ça, c'est de dire on peut pas continuer à séparer, à opposer les hommes et les femmes. Il faut absolument réfléchir ensemble. Et les femmes ont tellement de retard. Alors dans les conseils qu'elle dit, elle leur dit par exemple aux jeunes femmes qu'elle rencontre aujourd'hui, vous êtes importantes, devenez prioritaires. Les femmes ont tellement pris l'habitude de passer après tout le monde, de servir tout le monde d'abord. Et s'il reste quelque chose, elles le prendront pour elles. Donc maintenant, oubliez tout ça, devenez égoïste, soyez prioritaires. Moi, ça me plaît beaucoup.
C'est vrai que la Suisse, plus encore que la France, a mis du temps à donner le droit de vote aux femmes. C'était en 1971. Nous, c'était en 1945, juste après la guerre. Donc voilà, c'était un petit peu dans... Et puis, il y a eu des endroits où c'était pire encore. D'autres où c'était mieux, soyons honnêtes. Par conséquent, c'est vrai que vous avez un point de vue un petit peu lointain sur ce personnage. Et en même temps, je le ressens presque amoureux, si j'ose dire. Pas tant de la personne, mais de la dignité avec laquelle elle a mené tous ses combats. Et surtout... sans haine, puisqu'elle se faisait le porte-étendard d'un féminisme qui n'était pas contre les hommes, vous faites bien de le rappeler, et c'est justement dans cet état d'esprit qu'elle a abordé tous les sujets qu'elle a abordés. Et alors, pour l'interpréter, cette Gisèle Halimi sur scène, eh bien, vous avez choisi Sylvie Boivin, qui ne peut pas être sur le plateau aujourd'hui, parce qu'à l'heure où on enregistre, elle joue.
Exactement. Et en fait, j'ai pas décidé de monter ce texte et ensuite je me suis dit voilà, je vais chercher une comédienne qui me paraît adéquate pour ce rôle. Pour moi, je ne procède jamais comme ça. Quand je me dis à la découverte d'un texte, voilà, j'ai la comédienne, je suis sûr, c'est pour elle, c'est extraordinaire, je commence à réfléchir et à travailler. Et là, en l'occurrence, j'ai lu ce texte tout à fait par hasard un jour. J'ai pris un train, j'avais oublié le bouquin que je voulais lire dans ce train, je me suis arrêté à la gare, j'ai vu un petit bouquin de Gisèle Halimi, je l'ai acheté, ça m'a fait le trajet. Et quand je suis arrivé dans l'autre gare, je me suis dit, voilà, ça c'est un texte pour Sylvie Boivin, j'en suis convaincu. Je le lui fais lire, elle était complètement enthousiasmée et elle le joue avec une telle conviction que le public, et il a raison, a l'impression que c'est vraiment Gisèle Halimi qui est en face de lui.
D'accord. Et c'est un bouquin qui est sorti en 2019 ou 2020, mais la création, elle est beaucoup plus récente.
La création très récente, on l'a créée l'automne dernier en Suisse. Donc c'est un spectacle qui n'a pas encore une année.
D'accord, donc une première pour le festival OFF. Alors, que les auditrices se rassurent, il ne s'agit pas pour nous, étant deux hommes sur le plateau, de parler de féminisme en l'absence de toute femme pour nous contredire. Ce n'est pas du tout le propos, on va juste parler de la mise en scène de ce texte-là, Une farouche liberté, qui est un peu le dernier, le chant du cygne, si j'ose dire, de Gisèle Halimi, puisqu'il a été même réédité à titre posthume après sa mort en 2020, moins d'un an après sa première publication. Alors, j'aime beaucoup l'affiche du spectacle, sur laquelle on peut voir la robe noire, noir austère de l'avocate, et sur le jabot, en fait, à l'emplacement du cœur, une petite cage ouverte d'où s'échappent des colombes. Ça fait un peu cucul la praline, certes, mais moi je trouve ça positivement et symboliquement très mignon. Une affiche en rouge et noir, par contre, ce n'est pas du tout le cas de l'actrice Sylvie Boivin, qui, elle, sur scène, alterne la robe noire de la justice, la robe austère de la justice, comme disait Pierre Desproges, qui un jour d'ailleurs taquinait Gisèle Halimi là-dessus dans une émission de radio déjà. La robe noire de la justice, de temps en temps, elle l'alterne avec des tailleurs roses. Et en fait, ce n'est pas innocent ce choix de couleur. C'est pour délivrer deux facettes de cette dame-là.
Complètement. Parce qu'au fond, Gisèle Halimi a cessé de dire, moi, au fond, la difficulté de ma vie, quand j'y réfléchis, c'est que j'ai voulu avoir tout. J'ai voulu travailler, conduire une carrière comme les hommes. Et j'ai jamais accepté de renoncer au câlin avec mes enfants, à l'histoire racontée avant le coucher, etc. Et ce grand écart, c'est extrêmement compliqué. Et beaucoup me l'ont reproché, à commencer par ma mère, puisqu'elle dit que sa mère lui reprochait d'abandonner ses enfants pour défendre les Arabes et traitait ses jeunes filles au père, ses nounous, de mercenaires. Donc, je veux dire, elle a été très méchamment combattue, agressée, et elle s'est défendue en disant non, je vais essayer de faire tout. Et en même temps, ce que je trouve extraordinaire chez Zizel Halimi, c'est qu'au fond, elle se dit, j'ai voulu essayer de faire tout, j'ai voulu essayer d'être partout à la fois. Je ne suis pas sûr d'être arrivé vraiment. Peut-être qu'une part de ma vie personnelle de femme, de ma vie de mère, ben, je l'ai laissé tomber parce que j'avais des exigences plus rapides, plus urgentes, et que j'ai cédé, entre guillemets, à mon travail, comme le font si souvent les hommes. Mais les hommes, c'est au fond conventionnel chez eux. Alors que moi, je voulais rester une mère, hein, et présente.
Mais il y a beaucoup de femmes, comme on dit, des femmes actives, qui ont ce genre de non seulement de scrupules, mais parfois même de regrets. Et je suis sûr qu'il y a des hommes qui les ont aussi, mais ils n'arrivent pas à les formuler parce que, comme vous le dites, c'est conventionnel et on n'aurait même pas le droit de s'en plaindre. Donc, c'est curieusement les combats du féminisme ont fait aussi évoluer nos conditions d'hommes, puisque de nos jours, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque où Gisèle Halimi animait les prétoires, eh bien aujourd'hui, il y a des hommes qui peuvent se consacrer, même d'après avec quelques moqueries des collègues, etc. Malgré tout, il y a des hommes qui choisissent de se consacrer à l'éducation de leurs enfants plus qu'à leur boulot. À l'époque de Gisèle Halimi, c'était inenvisageable. Donc, je suis très heureux pour ma part que ces combats féministes aient eu lieu, puisqu'ils me permettent d'améliorer moi aussi ma condition de mâle dominant, soi-disant, hein, rien à cirer en ce qui me concerne. Mais je suis heureux que ça ait été là. Et bien justement, vous soulignez un petit peu les difficultés de ces époques-là, dans les années 70, à mener tous ces combats avec une séographie qui fait la part belle aux plaidoiries notamment.
Oui, bien sûr, parce que ces plaidoiries, et c'est tout à fait étonnant, j'avais l'autre jour dans le public une avocate qui me disait à la sortie, moi j'ai travaillé à peu près toutes les grandes plaidoiries de Gisèle Halimi, je les ai travaillées en cours, parce qu'on les travaille pour voir comment c'est construit, où ça bascule, comment ça repart en arrière, comment ça fait appel à une référence historique, une référence mythologique, une référence personnelle, etc. C'est extrêmement bien fait, donc c'est utilisé dans les cours, et j'avais évidemment envie de faire entendre quelques extraits de ces plaidoiries. Donc la scénographie, elle est extrêmement simple. C'est une barre, comme on a dans tous les tribunaux. C'est une robe d'avocat. Et puis à part ça, c'est juste un tabouret haut, un caisson et tout, donc rien. Et puis pas mal de lumière, bien sûr. Mais la scénographie est extrêmement dépouillée. Et au fond, elle passe constamment de cet habit fuchsia à sa robe d'avocat qu'elle enfile, qu'elle enlève, etc. Elle revient constamment à la charge, y compris par exemple à l'époque où elle décide de se lancer en politique, elle fera partie de l'Assemblée nationale, sera députée pendant quelques années, et puis au bout d'un moment où, comme elle le dit elle-même, j'ai déposé beaucoup de propositions de loi, aucune ne fut portée à l'ordre du jour, donc aucune ne fut débattue, elle décide de revenir à son métier en disant « défendre et dénoncer, c'est ma raison d'exister ».
Ça paraît incroyable aujourd'hui, mais elle a soutenu chevènement à une époque, Gisèle Halimi, dans un lointain passé où le rose du socialisme voulait encore dire quelque chose, qui est aussi le rose du tailleur qu'elle porte sur scène. Voilà, alors aujourd'hui, sur les internets, on peut trouver une blague qui est assez récurrente, mais qui est tout à fait à propos par rapport au combat et aux envies de régression sociale qu'il y a aujourd'hui chez certains réactionnaires. C'est-à-dire que les filles ou les gars, d'ailleurs, disent parfois sur Twitter ou Facebook, vous trouvez que vous osez parler d'avortement de confort, eh bien les gars, on vous invite à faire une vasectomie de loisir, voilà, bon courage. Ça, aujourd'hui, ça nous fait rire parce que c'est formulé de manière comique, mais à l'époque de Gisèle Halimi, disposer de son corps, l'affirmer comme ça, ça demandait quand même non seulement beaucoup de courage, mais des arguments capables de toucher les mentalités de l'époque.
Absolument, parce que, au fond, ce qu'elle dit, par exemple, à l'Assemblée nationale, quand elle défend, quand elle refuse que l'homosexualité soit considérée comme un délit, au fond, elle s'étonne de voir que des hommes, des députés de l'Assemblée nationale puissent être capables de légiférer sur la sexualité, alors que s'il y a un domaine, dit-elle, dans lequel la loi doit être complètement absente, c'est bien celui de la sexualité. Et ça, à l'époque, c'est d'une originalité, d'une folie totale. Et d'ailleurs, un ancien garde des Sceaux lui reproche de vouloir faire de la France une partouze générale. Donc on est bien là, je veux dire, on est en face d'une droite pure et dure qui se dit, non mais attends, si on lâche ça, mais il n'y a plus de société, il n'y a plus de culture française, il n'y a plus rien.
alors même que des gens antérieurs à ces polysinistres politiciens-là, dont l'histoire n'a pas forcément retenu le nom, d'ailleurs, en tout cas, moi, je ne m'en souviens pas, mais De Gaulle lui-même avait reçu Gisèle Halimi à une époque dans son bureau, et il n'était pas insensible à certains de ses arguments, comme quoi même les vieux lions de la droite conservatrice pouvaient être sensibles à cela, et de la société civile, d'autant plus, mais ça prend du temps, bien entendu, en Suisse comme en France, hein, on est bien d'accord, voilà. Alors, je me demandais... Il y a quand même aussi Gisèle Halimi, bon, le temps a passé, elle a mené de justes combats qui ont fait avancer la condition des femmes. Mais il y a d'autres générations de femmes et de féministes avec lesquelles, sur la fin de sa vie, ben, elle a eu parfois des difficultés à communiquer. Je me souviens d'une émission de télévision avec Virginie Despentes, par exemple, où c'était extrêmement froid entre elles deux, parce qu'on avait l'impression qu'elles ne se comprenaient pas, alors que finalement, leur combat était le même. Et en même temps, vous dites que dans ce livre-là, Une farouche liberté, elle s'adresse à la jeunesse, justement.
Elle s'adresse aux jeunes femmes qui, dit-elle, construisent le monde de demain, parce qu'au fond, elle a le sentiment qu'elle et ses collègues se sont beaucoup battus à une certaine époque et que les générations d'après, qui sont nées à un moment où quelques droits fondamentaux paraissaient acquis et définitivement acquis, finalement, elles ne se sont plus tellement battues. Et au fond, elle ne cesse de dire, d'abord, au fond, elle leur donne quatre conseils aux générations futures. D'abord, n'oubliez pas que votre indépendance, c'est d'abord votre indépendance économique. Ensuite, soyez égoïste. Les femmes ont aussi souvent fait tout passer avant elles-mêmes. Maintenant, vous êtes importantes, devenez prioritaires. Faites ce qui vous plaît, vous avez le droit. Et la troisième chose, refusez l'injonction de faire des enfants à tout prix. Réduire une femme à un ventre, c'est ridicule. La quatrième et dernière, n'ayez pas peur du mot féminisme. Le féminisme, c'est le combat le plus extraordinaire de l'humanité, un combat qui n'a jamais versé de sang, qui a permis aux hommes d'être libérés des diktats terribles de la virilité et qui permet aux hommes et aux femmes de vivre ensemble. Donc voilà, elle essaie de leur dire ça, puis surtout elle leur dit continuez le combat, parce que rien n'est jamais acquis. On voit ce qui se passe aux États-Unis avec quelques décisions récentes de la Cour suprême, et on se dit finalement quelque chose qui paraissait impossible de remettre en question, ben si, on peut tout à fait le remettre en question, et ce serait, j'imagine, le possible aussi en France si certains partis arrivaient à une majorité convenable.
Vous voulez dire le SDAP, c'est ça? Ah non, ça, c'est votre Front National en Suisse, à vous,
c'est
vrai.
Ça.
Voilà. Donc, comme disait Simone de Beauvoir avant même Gisèle Halimi, même si c'est une personnalité moins séduisante, elle avait des arguments qui font mouche, notamment celui-ci. Hein, n'oubliez pas que la première crise économique ou la première guerre venue viendra remettre en question les droits chèrement acquis de votre condition féminine. Voilà. En même temps, ça me fait rire d'entendre Gisèle Halimi parler d'égo, de dire soyez égoïste. Quand c'est Ayn Rand aux États-Unis qui dit soyez égoïste, c'est extrêmement sordide, puisque elle était, prenait ça au premier degré. Quand c'est Gisèle Halimi qui dit soyez égoïste, c'est fait bizarre, parce que vu la générosité dont elle a fait preuve tout au long de sa vie, c'est assez étrange. Mais bon, on voit ce pourquoi elle a formulé les choses comme ça. Voilà, en tout cas, merci Jean Chollet d'être venu nous parler de ce spectacle.
Merci beaucoup à vous.
Je le rappelle, Une farouche liberté, une adaptation de Gisèle, des derniers textes de Gisèle Halimi, avec Sylvie Boivin dans le rôle titre. C'est joué à 14h45 au théâtre Pierre de Lune, jusqu'au 30 juillet. Comment ça se passe jusqu'à présent et quels ont été les retours de la gente féminine en règle générale et du public en général, pardon, et de la gente féminine en particulier?
Alors, les retours sont formidables. C'est pas tout à fait le succès que j'avais imaginé, mais ça, beaucoup vous le diront. Mais c'est très convenable. On a fait des remplissages de salles tout à fait convenables, mais on n'a pas refusé du monde avec des listes d'attente, etc. En revanche, le public est extrêmement enthousiaste à la sortie. J'ai l'impression, autant les femmes que les hommes. C'est en ce sens que je trouve que le texte de Gisèle Halimi est vraiment bien, parce qu'il n'oppose pas hommes et femmes. Sinon, probablement, les hommes sortiraient en étant un tout petit peu blessés et les femmes un peu vainqueurs. C'est pas du tout le cas. Je crois que les gens sortent très heureux de ce spectacle.
Et puis j'ai envie de conclure cette interview par une citation de René Char, un garçon qui était du Vaucluse, qui était aussi le poète préféré de Gisèle Halimi, qui disait « Impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque, à te voir, ils s'habitueront ». Et bien c'est ce qu'elle a fait, elle a eu raison. Et merci Jean Chollet de nous le rappeler.
Merci beaucoup à vous.
Allez chers amis, restez sur Osmose.